RMC, 14h-18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et nous sommes à 45 km de l'arrivée de cette 10e étape du Tour de France, avec toujours un avantage conséquent pour les hommes de tête, même si la tendance tout de même à se réduire. 4 minutes 55 d'avance pour les hommes de tête. On rappelle la composition, Fred, il y a du beau monde dans ce groupe, mais vont-ils réussir à rallier l'arrivée avant le peloton? C'est pas sûr, le Top Course.
Ça sent bon tout de même pour ce groupe qui s'est extrait du peloton après de nombreuses attaques en début d'étape à la sortie d'Andorre. 15 coureurs sont à l'avant avec une avance qui vient de passer sous les 5 minutes. Peter Sagan est l'homme le plus actif depuis le début de cette étape. Le champion du monde est dans ce groupe de tête aux côtés de l'ancien champion du monde Rui Costa, de Vincenzo Nibali, vainqueur du Giro fin mai et vainqueur du Tour de France il y a 2 ans. Également présent Stephen Cummings, vainqueur au lac de Payolle britannique il y a une semaine, accompagné de son équipier Edvald Boasson-Hagen, le champion de Norvège. Également présent Greg Van Avermaet, vainqueur au Lioran et maillot jaune en première semaine du Tour. Il est avec son équipier de chez BNC, Damiano Caruso. Durbridge, Impey et Matthews sont les 3 coureurs de l'équipe australienne Orica Greenedge. Et enfin la présence de 3 Français dans ce groupe de 15. Sylvain Chavanel, le vétéran de l'équipe Direct Energy, accompagné de Tony Galopin, ancien vainqueur d'étape, ancien maillot jaune, et Samuel Dumoulin, le petit lutin de l'équipe AG2R La Mondiale. Il reste 44 km à parcourir sur cette 10e étape vers Revel. L'avance des 15 hommes de tête est de 4 minutes 50 dans la grisaille du Midi-Pyrénées aujourd'hui.
Et on va retourner à la tête de cette course, justement avec la moto RMC, Georges Quirino, qui se trouve avec les hommes de tête qui s'entendent bien. Cette fois-ci, Sagan ne tente plus de flinguer tout le monde, Georges.
Ouais, mais en tout cas je sais pas si on s'entend vraiment bien dans ce groupe. Tiens, on va se rapprocher de la voiture de la formation AG2R La Mondiale qui suit Samuel Dumoulin, qui est là, Biondi, qui est là. Bonjour. Bon, avec Samuel Dumoulin dans ce groupe, qu'est-ce qui est envisageable pour ce groupe de tête, vous pensez? On voit que derrière ça contrôle quand même avec l'équipe Direct Energy.
De toute façon, pour notre équipe AG2R La Mondiale, évidemment, l'important est que l'arrivée arrive, que l'échappée arrive au bout, et puis que, évidemment, notre coureur Samuel Dumoulin puisse gagner cette victoire.
Ça va être difficile de sortir de ce groupe-là. C'est un peu la Ligue des Champions devant. Hein. Il y a Sagan, Van Avermaet, Matthews. Comment vous voyez les chances de Samuel? Il va falloir être malin dans cette échappée.
C'est vrai qu'il y a une grosse brochette de champions. Hein. Il y a des gros champions qui sont devant, mais c'est justement parce qu'il y a des champions que l'échappée peut-être aller au bout. Donc il va falloir être très vigilant et puis avoir du flair.
L'équipe AG2R La Mondiale est sortie des Pyrénées avec le sourire. Romain Bardet est bien placé au général. C'est votre état d'esprit?
Oui, pour nous tout va bien. Romain est très très bien placé, il marche très fort. L'équipe a vraiment un gros moral, donc même si le temps n'est pas à la fête, on a un gros moral et on espère qu'on va conclure rapidement par une victoire.
Super, merci beaucoup. Voilà, donc on était avec la voiture AG2R La Mondiale derrière Samuel Dumoulin qui est dans cette échappée.
Merci Georges. Tiens, aujourd'hui je vous offre un pack de 2 places VIP pour assister à la 15e étape du Tour qui aura lieu le dimanche 17 juillet entre Bourg-en-Bresse et Culose. Au programme, accueil à l'espace VIP, déjeuner et passage de la caravane et des coureurs sur la ligne d'arrivée. Vous devez être majeur pour y accéder. Pour jouer, c'est maintenant au 7-32-16. Il suffit d'envoyer le mot Tour. Bonne chance.
Suivez le Tour de France avec les pneus Kléber, fournisseur officiel du Tour de France.
Un mot sur le peloton qui roule évidemment derrière ses échappés,
oui.
Avec notamment Thomas Vauclair, hein, qui roule oui. Sur Sylvain Chavanel.
Depuis une demi-douzaine de kilomètres, effectivement, Thomas Vauclair s'est positionné à l'avant du peloton dans un style très spectaculaire, très caractéristique du coureur de l'équipe Direct Energy. Effectivement, la tête qui bouge dans tous les sens, des rictus de souffrance ou d'enthousiasme, c'est au choix. En tout cas, très expressif, Thomas Vauclair. Pourquoi roule-t-on chez Direct Energy? Évidemment pour Brian Coquard, qui semble en mesure de sprinter à Revel après avoir franchi la côte de Saint-Ferréol à 7 km de l'arrivée. La grande question qui se pose quand même, c'est de quel droit les Direct Energy roulent sur leur représentant Sylvain Chavanel dans ce groupe de 15. C'est vrai qu'a priori Sylvain Chavanel, il aura du mal quand même à faire jeu égal avec des coureurs comme Nibali, comme Van Avermaet, comme Sagan.
Alors Jérôme, quand on est dans un groupe d'échappés comme ça, qu'on s'appelle Sylvain Chavanel, que l'on est l'une des têtes d'affiche du peloton français et qu'on sait que l'un de ses équipiers roule à bloc pour revenir sur l'échappée, on pense à quoi dans ces moments-là?
On doit être honnête. La première chose à faire, c'est d'être honnête avec ses coéquipiers, avec ses directeurs sportifs. Et Sylvain est quelqu'un d'honnête et il a certainement dû dire dans l'oreillette ou à Lilian Le Breton qui se trouve derrière lui, je le sens pas, j'ai pas la canne pour battre les meilleurs de ce groupe. Et donc, on joue la carte Brian. Je pense que ça part de là. On ne va pas rouler sans prévenir Sylvain. Voilà, on a dû consulter Sylvain et on s'est consulté avec l'arrière du peloton aussi, avec Brian qui a dû dire je le sens, je peux gagner aujourd'hui. Et il endosse ce rôle. C'est une grosse pression pour Brian aujourd'hui parce que il a énormément de respect bien sûr pour Sylvain. Il sait ce que Sylvain représente pour l'équipe, mais aussi pour le cyclisme français. Il est l'unique carte de l'équipe. Il a quand même donné la responsabilité à ses équipiers de rouler. Donc je pense que oui, il y a une belle communication dans cette équipe, il y a une vraie solidarité entre coureurs. On n'a pas roulé comme ça sans savoir que Sylvain, comment allait Sylvain. Je pense que Sylvain ne se sent pas capable d'aligner ce groupe d'échappés.
Ok, voilà.
Et si Sylvain Chavanel dit j'ai les cannes et laissez-moi tranquille à l'avant, il n'a pas le droit de se louper. S'il ne gagne pas l'étape, l'ensemble de l'équipe Direct Energy saura s'en souvenir. Ouais.
Alors c'est l'heure de notre débat avec nos confrères du Parisien. Lionel Chamy nous a rejoint. Bonjour Lionel.
Bonjour à tous.
On va s'intéresser à Thibaut Pinot évidemment, qui a été l'un des hommes dont on a le plus parlé durant la première partie de ce Tour de France. Pas forcément
ça,
bien,
oui.
Parce que le passage dans les Pyrénées n'a vraiment pas été du goût du coureur français, du leader de la formation FDJ, qui a été largué à plusieurs reprises. On rappelle qu'au classement, il est aujourd'hui 27e avec un retard de 15 minutes 39. Donc ses ambitions de départ sont évidemment envolées. Thibaut Pinot qui porte aujourd'hui le maillot à poids de meilleur grimpeur, qui va tenter sans doute de défendre ce maillot dans la montagne dans les jours qui viennent et qui voudra également remporter une étape. Mais on est loin des ambitions de départ, c'est-à-dire rentrer sur le podium de ce Tour de France. Alors, année après année, il y a quand même des questions qui se posent autour de Thibaut Pinot, Lionel, et on se demande si un jour il pourra remporter le Tour de France, comme on pouvait le dire il y a encore quelques mois ou quelques années. Qu'est-ce qu'il doit faire pour espérer un jour remporter le Tour de France? On va poser la question à tout le monde. On va commencer avec toi, Lionel. Est-ce que tu le vois toujours dans la peau d'un potentiel vainqueur du Tour de France? Pas cette année, évidemment. Hein.
Non, cette année, ça paraît clair. Vainqueur potentiel du Tour de France, oui. Potentiel, oui. Voilà, moi, je crois que il doit ajouter des choses à son arsenal, quoi. Je pense que, comme le disait Cyril, je pense que le moteur, il l'a. Je pense qu'il devrait peut-être agir sur son approche du Tour, mettre plus de chances de son côté, avoir une approche, dédramatiser le truc et faire des choses qui lui donneraient confiance. Commencer par gagner essayer de gagner
un autre grand tour.
Mm-hmm. Parce que jusqu'ici il l'a pas fait. Il avait fait 7e d'une Vuelta après s'être raté il y a quelques années. Ça met en confiance, j'imagine.
Un autre grand tour ou même une course par étape d'une semaine.
Ouais, mais c'est jamais la même chose. C'est pas comparable quand même. Un grand tour, c'est vraiment faire le leader pendant 3 semaines.
Mais commençons par une étape étape d'une semaine.
Ça, à l'évidence, il l'a dans les cannes. Voilà. Peut-être que pour dédramatiser le truc, il devrait effectivement peut-être faire une année avec en courant le Giro et venir ici sans axer toute sa saison sur le Tour de France. Voilà.
Ouais. Cyril, quel est ton point de vue? C'est vrai que Lionel faisait référence à ce que tu as pu exprimer dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Ton analyse, elle est assez claire et assez tranchée sur Thibaut Pinot. Comme Lionel, tu penses qu'il y a des choses à changer dans son fonctionnement, dans son approche de cet objectif?
Oui, il y a beaucoup de choses à changer. Enfin, il y a par obligation une remise en cause de son approche individuelle, mais de son approche collective aussi, parce que on ne court pas tout seul, on ne prend pas les décisions tout seul, on s'entraîne pas tout seul. Il y a derrière toute une vie sociale qui s'organise autour de lui. Alors là, j'écoutais le commentaire. Et dans ce commentaire, on dit toujours « il devrait ». Est-ce qu'il est en capacité de pouvoir dire je vais faire comme ça? Ou est-ce que c'est aux gens qui l'entourent d'essayer d'analyser les raisons qui font que bon, il a un blocage dès qu'il se trouve dans certaines situations et c'est répétitif. Donc,
les gens qui l'entourent, c'est qui? C'est son entraîneur,
c'est
son manager Marc Madio.
C'est la cellule complète qui doit se remettre en cause aussi. C'est pas seulement le coureur, puisque le coureur, il est quoi? Il est en bout de chaîne. Et il est en bout de chaîne depuis des années, puisque il est l'élément qui produit un résultat. Donc si il produit un résultat, ça veut dire que en amont, il y a des gens qui vont lui donner les éléments, qui vont lui donner les outils, qui vont lui donner éventuellement la feuille de marche pour y arriver. S'il n'y arrive pas et qu'il reproduit les mêmes erreurs, ça veut dire qu'il faut remettre en cause avant lui. C'est avant lui, dans l'approche, dans son organisation matérielle, physique, psychologique. Il y a plein de choses à faire pour arriver à faire en sorte que cette inhibition, car c'est une inhibition qu'il a à la prise de responsabilité, à les assumer. C'est donc à ce niveau-là qu'il faut agir.
Ouais. Jérôme, on en parlait il y a quelques instants. D'ailleurs, Thibaut Pinot l'a évoqué hier. La saison prochaine, il ambitionne peut-être de se présenter au Giro, comme en parlait il y a quelques instants Lionel Chamy. Est-ce que c'est une bonne approche pour toi? Est-ce qu'il faut qu'il aille se mesurer sur d'autres grands tours avant de venir dans la plus grande course du monde pour essayer de la remporter?
Oui et non. Déjà, il faut pas sous-estimer le Giro. Hein. C'est pas parce que Thibaut Pinot va dire je vais aller au Giro qu'il va le gagner. Attention, il y a du monde au Giro. C'est très difficile. Il y a aussi la pression au Giro parce que s'il y va, c'est pas pour gagner le maillot des meilleurs grimpeurs. Ce sera pour gagner. Et ça roule très vite aussi. Ça frotte aussi beaucoup. On va avoir besoin d'être concentré sur 3 semaines au Giro. Pareil. Est-ce que c'est une solution? Peut-être. C'est une solution de repli. C'est pour moi un constat d'échec, déjà. Quand on a son âge, quand on a montré ce qu'on a montré, quand on a son statut, que ce soit financier, social, au sein de son équipe, on doit assumer ce genre de choses. Pour moi, c'est vraiment un constat d'échec de dire en l'an prochain, on va essayer le Giro et il viendra sur le Tour sans pression. C'est dommage. Moi, aujourd'hui, j'étais l'un des plus grands supporters et des ceux qui pensaient que Thibaut pouvait s'imposer sur le Tour. Aujourd'hui, je ne le pense pas et je suis même persuadé que c'est plus possible. Parce que quand on supporte pas la pression, quand on est un champion comme lui, c'est difficile d'aller gagner sur 3 semaines. Alors, peut-être, effectivement, qu'en ayant gagné une fois ou deux un autre grand tour,
ça peut débloquer de remporter.
Mais par contre, où moi je vous rejoins pas du tout, c'est dire je vais aller sur le Giro, je gagne, je reviens sur le Tour. Oui. Je peux éventuellement. Non, même les plus grands, les plus forts ont essayé de faire le doublé. Ça n'est plus possible dans le cyclisme moderne. Thibaut Pinot, le jour où il finira.
Non, mais pas le doublé sur une année, mais faire le Giro l'année prochaine, essayer de le remporter.
Mais ça reviendra au même. Mais le jour où il reviendra sur le Tour, il aura tout autant.
Il y a moins de pression pour un coureur français qui s'engage sur le Giro que sur le Tour de France.
Bien sûr, mais on parle d'acheminement vers une victoire sur le Tour en passant par le Giro. Je suis pas certain qu'une fois qu'il aura gagné le Giro, il sera libéré de cette pression. Il reviendra sur le Tour. La presse sera derrière lui. On est presque en train de reprocher à la presse de dire on a mis trop. Non, on l'a pas mis trop. On l'a mis où il doit être, c'est-à-dire parmi les meilleurs.
Il a été l'un des
premiers à craquer sur ce Tour. Ouais. Et on l'a vu depuis. Il a réagi. Alors il dit qu'il est pas super. Moi je suis désolé. Quand on fait les numéros qu'il fait dans les Pyrénées, on peut pas dire que les Pyrénées c'est pas son truc. On peut pas dire que c'est la chaleur parce qu'il a pas fait si chaud que ça. Il a besoin de prendre une claque pour réagir. Mais malheureusement une claque sur le Tour, Ça coûte cher.
Bon, bah nous verrons la stratégie adoptée par Thibaut Pinot et la FDJ la saison prochaine. On verra également si Thibaut pourra se rabattre sur des objectifs pas aussi élevés que ceux du départ, avec notamment ce maillot à pois rouge de meilleur grimpeur. Merci Lionel d'être venu dans le camion RMC.
Merci à vous.
Les bons papiers, c'est à lire évidemment dans Le Parisien aujourd'hui en France. Et Cyril était interrogé aussi par L'Équipe, le journal L'Équipe ce matin.
Bien sûr.
Concernant Thibaut Pinot, Cyril qui est partout, dans toute la presse.
Pour avoir été au centre de presse hier sur la journée de repos, j'ai vu Lionel et Cyril en grande discussion ensemble. Oui.
Il a donné plus d'interviews que Thibaut Pinot hier, Cyril Guimard, dans la salle de presse.
Ouais, parce qu'il est toujours dans le coup, lui.
Oui, il est toujours dans le coup, notre druide. Bah oui, on s'en félicite, évidemment.
Ouais, je ne craque pas parce que je n'ai pas de pression.
Oui, non, t'as pas on va te la mettre, la pression. Merci en tous les cas.
Bon, à demain, alors. À demain,
tu restes avec nous pour le final de cette étape. 33 km de l'arrivée, 4 minutes 40 d'avance pour les hommes de tête. On revient dans un instant pour vivre le final de cette étape. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Nous sommes à 31 km 300 de l'arrivée de cette 10e étape du Tour de France sur les routes, non pas ensoleillées, mais mouillées du sud-ouest en direction de Revel. On va faire un point sur cette course parce que ça va très vite, Fred, et que l'arrivée devrait intervenir dans la demi-heure qui arrive. Peut-être un tout
un petit peu plus peut-être. 31 km à parcourir en effet. Et il reste la petite mais assez raide côte de Saint-Péréol. Voilà, Jérôme adore les petites mais raides. 31 km comme ça, elle est placée à 7 km de l'arrivée, cette côte de Saint-Péréol, et elle conviendra forcément à l'un des punchers actuellement en tête de la course, puisqu'un groupe de 15 ouvre toujours la route avec 4 minutes 30 d'avance sur le peloton, un groupe de 15 où l'on trouve les meilleurs spécialistes de classique du monde: Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Rui Costa, Vincenzo Nibali, Michael Matthews, Edvald Boasson-Hagen, le Norvégien, également présent à l'avant, trois coureurs français: Sylvain Chavanel, lui aussi ancien spécialiste de classique, Tony Galopin, également très bon puncher et à qui cette côte de Saint-Féréol pourrait servir d'excellent tremplin, et Samuel Dumoulin, le format poche de l'équipe AG2R La Mondiale. 30 km à parcourir dans cette étape de transition en direction de Revel, 4 minutes 20 d'avance pour les 15 qui continuent de tourner un par un. On s'entend très bien à l'avant de la course. Il n'y en a qu'un qui ne prend pas de relais, il s'appelle Sylvain Chavanel et il est coéquipier de Brian Coquard. Coquard qui espère bien une arrivée au sprint, mais il va falloir s'affoler pour revenir sur la tête
de
course.
Et oui, parce que l'avance est toujours importante. Georges Quirino est sur la moto RMC à l'avant de la course, justement avec les hommes de tête qui continuent d'y croire et qui continuent d'appuyer très fort sur les pédales.
Oui, et même Vincenzo Nibali, que l'on voit à l'instant, l'Italien, se porter à l'avant, le coureur de la formation Astana. Il y a un gros vent de côté là, alors que l'on est dans la traversée de Castelnaudary. Vous parliez
tout à l'heure,
Castelnaudary. Et ben oui, voilà, capitale mondiale du cassoulet. Et Christophe, on passe aussi à l'instant même le pont neuf au-dessus du canal du Midi, où on se rappelle qu'il y avait une belle sortie cycliste il y a de cela quelques années. Et pour l'équipe RMC, voilà, en tous les cas il y a énormément de monde, de drapeaux présents ici pour le passage des coureurs dans cette localité qui a déjà vu bien souvent passer les coureurs du Tour de France. Énormément de monde là, voilà, à gauche, à droite de la route, alors qu'on est dans le centre de la ville pour accueillir donc l'échappée qui continue de travailler, sauf Sylvain Chavanel, comme nous l'expliquait tout à l'heure son directeur sportif Lilian Le Breton, car on est entre deux eaux pour la Direct Énergie, avec notamment le sprinter Brian Coquard derrière, qui aimerait bien se mettre en évidence aujourd'hui.
Voilà, tu évoquais il y a quelques instants cette course cycliste de l'équipe RMC au bord du canal du Midi. On pense très fort évidemment à notre copain Olivier Schwartz qui nous accompagnait et qui n'est plus avec nous aujourd'hui. 29 km 100 de l'arrivée, on va essayer de retrouver Dédé, parce qu'on se demande bien où il est passé celui-là, tiens.
Il est où Dédé?
Il est là, il est arrivé. Il arrive tôt cette année. Hein.
Oui.
Je sens qu'il doit y avoir des plateaux repas qui l'attendent à l'arrivée.
On les prend le matin. On les...
Ah oui, oui. Toi, t'as droit au plateau repas.
Petit plateau repas le matin.
Des super VIP dont on nous parlait tout à l'heure.
Absolument. Ouais. On mange sur un coin de balayeuse. C'est délicieux en bordure de route. Et puis après, comme ça, je peux prendre un peu de champ et arriver plus vite pour vous retrouver.
Dédé qui toute l'année fait le régime, qui perd 10 kilos et qui en reprend 15 pendant le Tour de France.
J'en connais d'autres.
Et boum. André, l'arrivée de cette étape avec cette petite côte de Saint-Féréol. Oh, bon, aujourd'hui, il n'y a pas de reçuage, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de boue sur la route.
Non plus.
Il y a quand même eu du brouillard tout à l'heure au sommet de
Valira. Dans la descente, là, quand on est du côté du pas de la case, c'était un peu touchy, mais après, sans problème pour nous, puisque la route était extrêmement fraîche, il a même plu, donc il n'y a pas de souci pour nous. Puis après, cette dernière côte, à quelques kilomètres, à 7 kilomètres de l'arrivée, une côte qui ne présente aucune difficulté routière, le revêtement est en parfait état, c'est assez large, c'est large aussi dans la descente. Il y a quand même quelques petits virages, quelques petites bosses de temps en temps, mais ça roule bien. Et puis quand on arrivera sur le final, là ça risque de se compliquer avec une épingle à 6 km de l'arrivée, un gros coup de frein, un gros virage, on tourne à gauche et puis ensuite on est barriéré, les 3 derniers kilomètres sont barriérés, les 2-3 derniers kilomètres c'est du barriérage.
c'est sous les platanes, c'est tout droit, et puis après, ma foi, gagnera le meilleur des rescapés du jour.
Oui, c'est le même final que là où s'était imposé Alexandre Vinokourov, voilà 6 ans. Il avait profité du tremplin que constitue cette côte de Saint-Féréol pour résister au retour du peloton, un peloton qui avait fini sur ses talons. Alexandre Vinokourov qui faisait son retour sur les routes du Tour de France après avoir été exclu, on s'en souvient, pour transfusion sanguine.
Georges, à côté d'un directeur sportif à l'avant de la course.
Oui, on va essayer de se rapprocher de la voiture d'une équipe qui marche sur ce Tour de France. C'est celle de la formation Dimension Data qui suit notamment Edvald Boissenhagen dans cette échappée. On va se rapprocher pour voir Jean-Pierre Hendricks, voilà, le directeur sportif flamand. Ils sont en train de parler au champion de Norvège pour l'instant, au Tolkien. Pour le moment, il ne veut pas ouvrir avant qu'on sache exactement ce qu'il est en train de dire, parce qu'à côté de lui, il y a un autre directeur sportif qui est en train de donner les ordres. Voilà, ça y est, maintenant que c'est plus top secret, on va pouvoir ouvrir la vitre. Bonjour Jean-Pierre, derrière cette échappée avec Edvald Boissenhagen, quelle est la carte principale aujourd'hui pour vous? C'est Edvald devant ou c'est Marc Cavendish derrière?
Bon, il y a plusieurs pointeurs dans le groupe ici, on va voir. Il y a Costa, Savanel, donc Van Avermaet. Il y a beaucoup de coureurs qui peuvent gagner, donc on n'a pas décidé qui va gagner. Le pion spécial.
Ouais. Comment se sent Edvald Boissenhagen? Vous parlez avec lui là, j'imagine, depuis le début de cette étape. Est-ce qu'il y a un coup à jouer aujourd'hui? Vous pensez c'est une étape que vous aviez cochée?
Bon, il était dans l'échappée pour protéger dans le début CAF. L'échappée jusque va au bout, donc on va voir.
Pour Marc Cavendish, vous pensez qu'il y a une possibilité aussi pour Marc dans ce final, pour Marc Cavendish?
Bon, il reste encore 4 minutes, donc on va voir la dernière côte là.
C'est un tour de France de rêve pour l'instant pour vous, pour Dimension Data.
Ah, pour l'instant, il y a 4 victoires. Ouais.
Merci beaucoup. Jean-Pierre Hendricks qui a du mal à nous entendre, mais qui nous fait le plaisir de nous répondre en français. Il parle beaucoup de langues. Hein. Notre directeur sportif flamand, donc Jean-Pierre Hendricks, qui est derrière Edvald Boissenhagen dans cette échappée. Ils veulent pas nous en dire beaucoup aussi. Hein. Je peux vous le dire. On est en train de faire passer la radio là pour parler à Boissenhagen et derrière avec l'équipe derrière Marc Cavendish. Je pense qu'on est en train de réfléchir à la bonne carte à utiliser peut-être aujourd'hui pour la formation Dimension Data.
Voilà, Dimension Data qui effectivement a déjà réussi son tour. 4 victoires d'étape et ils ont en plus raflé la mise au niveau des primes. 49 720 euros décrochés depuis le début de ce Tour de France. C'est important ça, parce qu'à la fin du Tour, Jérôme, on partage tout ça. Donc plus on gagne d'étapes, plus il y a de sous pour tout le monde.
Bien sûr. Et quand on est dans l'équipe à Cavendish, quand c'est une grande année Cavendish, en général, on
rentre. Ça t'est arrivé toi déjà?
Ça m'est arrivé. C'est des bonnes années pour moi. C'est...
Voilà. Derrière les vacances,
mon banquier a bien aimé ces années-là.
Souvient, ouais. Et oui, maintenant t'es dans l'équipe RMC, t'es presque aussi bien payé
que l'autre. Tu es mon Cavendish.
C'est lui qui va partager son salaire à la fin du mois.
Ouais, exactement.
On le rappelle quand même, les prix sont divisés en 9 et on enlève 10% de ces prix-là qu'on donne à partager à tout le staff.
Voilà. Et à tous les seniors.
Et quand on est un grand seigneur, ce que ne sont pas tous les coureurs, on les laisse sa part quand on est leader. Ouais. Mais ça n'arrive pas tout le temps.
Ah d'accord, vas-y, balance.
Cavendish laissait sa part.
Cavendish le faisait, Chavanel le faisait.
D'accord.
D'autres n'ont pas fait.
Tu nous en diras plus tout à l'heure, hein, évidemment.
Sagan ne secoue le cocotier du
oui.
groupe à l'avant.
Oui.
Georges, es-tu avec la tête de course? Parce qu'effectivement, Peter Sagan, qui est le plus actif depuis le début de cette 10e étape du Tour, en remet une petite très brièvement.
Exactement, oui, on voit Peter Sagan qui est parti, il a un coureur de l'équipe Orica Greenwich dans sa roue, on voit Sylvain Chavanel pour l'instant, Tony Gallopin, Rui Costa qui sont dans une petite cassure, qui vont partir en tous les cas, des coureurs piégés, Van Avermaet également, Nibali aussi, ouais, il y a voilà Nibali qui tente de réagir derrière et de rentrer avec Tony Gallopin, mais là voilà pour l'instant les piégés de l'attaque de Sagan, Nibali, Gallopin, Rui Costa, Chavanel et Van Avermaet qui sont un peu piégés.
Aïe aïe aïe, dommage pour nos Français, vont-ils réussir à revenir? On le saura dans quelques instants. 24 km de sang de l'arrivée, 3 minutes 48 d'avance pour les hommes de tête, mais le groupe de tête s'est scindé en plusieurs groupes. On vous dit tout dans un instant avec Fred Adam. Voilà, on va faire un point complet, Fred. 24 km de l'arrivée, effectivement. Le groupe de tête s'est scindé en deux groupes, deux groupes, c'est ça.
Oui, ils ne sont plus 15 à l'avant, mais une petite dizaine avec Daryl Impé, le sud-africain de l'équipe Orica Green Edge, qui emmène un groupe qui s'est détaché sous l'impulsion du champion du monde, Peter Sagan. Il reste 24 km à parcourir. Et les piégés de ce groupe de tête s'appellent Sylvain Chavanel, le français, Rui Costa, Stephen Cummings, Damiano Caruso, l'italien, et Tony Gallopin. 5 coureurs qui galèrent pour revenir sur la tête de course. A priori, piégés, Gallopin, Cummings, Rui Costa, Caruso et Chavanel. Pendant ce temps-là, Peter Sagan continue de mener sa petite bande avec dans sa roue Van Avermaet, Durbridge, Impé, Matthews, 3 Orica Green Edge. Samuel Dumoulin est là également côté français, ainsi qu'Edvald de Boasenhagen. Vous avez là le groupe de tête, un groupe
derrière ça s'entend pas du tout, hein,
un groupe qui Fred. S'entend beaucoup mieux qu'à l'arrière, effectivement. Nibali, Vincenzo Nibali, vainqueur sortant du Tour d'Italie, et lui en compagnie du Basque Mikel Landa, intercalé entre les deux groupes dont on vient de parler. La tête de course est donc composée de 7 coureurs, dont Samuel Dumoulin et Peter Sagan, ainsi que 3 Orica Green Edge. Les Orica en surnombre dans ce petit groupe de tête de 7 coureurs. Ça va forcément jouer en faveur de Michael Matthews dans le final, en tout cas.
Oui, alors il faut ajouter que c'est parti à la pédale, hein, et que il y a un vent de côté, ouais. Et que ce vent de côté a permis justement à Peter Sagan de durcir la course avec l'aide bien sûr des Orica Green Edge. Et derrière, même Nibali, qui était revenu pratiquement à quelques longueurs, a sauté.
Très bien, allez, on revient dans un instant. 23 km de l'arrivée, 3 minutes 41 d'avance sur le peloton maillot jaune.
RMC, c'est au 32-16.
45 centimes la minute.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Le final de cette 10e étape approche, puisque nous sommes désormais à 21 km 300 de l'arrivée. Fred, on va faire un point, parce que le groupe de tête a littéralement explosé sous l'impulsion du champion du monde, Peter Sagan.
Oui, c'est lui, le champion du monde, le Slovaque, qui mène la danse depuis le départ de cette 10e étape depuis Andorre. Il y avait le port d'Envalira, 22 km d'ascension classé en première catégorie, à escalader à la sortie de la principauté, et c'est lui, Peter Sagan, le sprinter puncher, qui a été le plus présent, le plus offensif, et il est récompensé jusqu'à maintenant, puisqu'il mène la bonne échappée du jour. On est à 21 km de l'arrivée ici à Revel, et la tête de course compte 4 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Une tête de course qui n'est plus composée de 15 hommes, mais bien de 7 coureurs, sous l'impulsion effectivement du champion du monde, Peter Sagan, accompagné des de Samuel Dumoulin, le français de l'équipe AG2R La Mondiale, le champion de Norvège Edvald Boasenhagen, le belge Greg Van Avermaet, déjà vainqueur au Lioran cette année et porteur du maillot jaune pendant 2 jours, et 3 coureurs de la formation australienne Orica Green Edge, l'Australien Durbridge, le Sud-Africain Impé et l'Australien Michael Matthews, leader a priori de cette équipe.
Et derrière, dans le peloton, on a renoncé à courir derrière cette échappée, on a renoncé notamment du côté de la formation Direct Energy. A priori, le vainqueur se trouve dans cette échappée. Jérôme, on en a la quasi certitude.
À coup sûr, là, c'est fini pour le peloton. On s'est un peu affolé du côté du peloton derrière, parce qu'il y avait tout simplement un vent de côté, donc des éventails se sont formés. Il y a une cassure derrière. On a vu André Greppel notamment qui est piégé derrière, mais c'est fini des chances du peloton. Maintenant, ça va se jouer devant. Et Peter Sagan me fait forte impression. Et je pense que les Orica Green Edge ne sont pas trop de 3 pour essayer de contrecarrer le championnat.
Alors justement, Cyril, quelle tactique adoptée par la formation Orica Green Edge pour tenter de piéger Peter Sagan, qui apparaît vraiment comme l'homme fort de cette échappée?
Bien, il n'y a pas 50 tactiques. Hein. Il faudra que dans la côte de Saint-Féréol, il maîtrise Peter Sagan, et y compris d'ailleurs Greg Van Avermaet, hein, parce que là, il n'y a vraiment que des costauds. Il ne faut surtout pas que Peter Sagan puisse s'en aller seul dans cette ascension. Une fois le sommet passé, s'ils sont encore tous les 3, alors après, ce sera un jeu tactique.
Voilà. Je vois pas quel, à part Van Avermaet, je vois pas quel coureur, même Orica à 3, peut déstabiliser Sagan parce qu'il a l'air une jambe au-dessus des autres.
Il y en a un, Boasson Hagen, a priori le champion de Norvège, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France. Ils étaient deux Dimension Data dans cette échappée toute la journée. Stephen Cummings fait partie des piégés, tout comme Chavanel et Nibali dans un deuxième groupe qui ne jouera plus la victoire. Mais Boasson Hagen semble un coureur a priori capable de faire jeu égal avec Peter Sagan. On va voir ça dans quelques kilomètres.
On va vite être au courant puisqu'on va arriver à 5-6 kilomètres du but.
Dans 11 kilomètres, le pied de la côte de Saint-Ferréol, classé en troisième catégorie et dont le sommet se situe à 7 kilomètres de la ligne d'arrivée ici à Revel.
Voilà, une petite côte qu'il faudra gravir. C'est pas très long, mais c'est assez pentu quand même.
1,8 km si on compte le faux plat précédent, 2 kilomètres avec 5, 6, 7, voire 8% par moment de moyenne. Des passages à 8%, pardon. Et après, une descente un peu technique, Dédé nous l'a expliqué. La descente est belle et large, mais on peut gagner beaucoup de temps. Et si Sagan arrive à s'isoler, en tout cas, si un coureur arrive là-haut avec 10 secondes d'avance, il aura course gagnée.
La moto RMC se trouve juste derrière le groupe de tête, Georges Quirino.
Exactement, derrière ce groupe de tête où est positionné un des coureurs de la formation Recalin Edge, c'est Michael Matthews, qui est le seul des trois à ne pas participer au relais depuis le début. Et on voit qu'il est bien cramponné dans la roue de Peter Sagan. Et ça n'a pas l'air de plaire du tout au champion du monde qui n'arrête pas de le regarder, qui lui a fait un signe comme pour dire bah, vas-y, travaille toi aussi, Michael, pour prendre des relais. Mais Michael Matthews lui a répondu non, moi je vais rester derrière. Donc visiblement pour la formation australienne, pour l'équipe Orica Green Edge, on a choisi la carte Michael Matthews pour garder de l'énergie dans ce final et peut-être essayer d'aller surprendre Peter Sagan tout à l'heure à l'arrivée.
Alors ils ne s'entendent pas tous forcément bien dans ce groupe de tête, il n'empêche Fred que l'écart est devenu conséquent par rapport à leurs anciens compagnons d'échappée, notamment ce groupe Nibali qui pointe avec un retard d'une minute désormais.
Une minute effectivement pour Rui Costa, pour Nibali, pour Tony Galopin, pour Sylvain Chavanel. Ils ont tour à tour essayé de revenir les uns sur les autres, les uns après les autres sur la tête de course, mais c'est impossible vu la manière dont on s'entend à l'avant de la course entre Sagan, Dumoulin, Boasson Hagen, Van Avermaet et les trois Orica Green Edge. A priori, ce groupe dans lequel évolue Chavanel ne parviendra pas à rentrer sur la tête de course. Ouais,
Chavanel et Galopin qui se sont fait piéger, Cyril, c'est dommage. Hein.
Non, pas piégé. Non, ils se sont fait sortir de la roue, c'est ouais. Tout. Attendez, non.
Ils n'avaient pas la force pour suivre.
Si on avait tous le même niveau, ça serait pas marrant, mais là, on pourrait se faire piéger. Mais c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la pédale qu'ils se sont fait sortir lorsqu'il y a eu ce petit passage vent de côté. Sagan a accéléré. Il a ouvert un moment la bordure, il l'a refermé et derrière ça a sauté. Non, ils n'ont pas été piégés. Dumoulin avait les jambes pour accompagner ce groupe. Et pour revenir sur le fait que Matthews ne roule pas, Peter Sagan, il a quand même deux équipiers de Matthews qui roulent, quoi. Ouais. Donc il est quand même un peu logique quand on est trois qu'on utilise le surnombre pour essayer d'aller gagner. Ou alors c'est une course individuelle et on s'occupe pas du maillot.
Georges, Quirino sur la moteur MC, ça discute a priori énormément entre les hommes de tête, Georges.
Et ça discute beaucoup avec Michael Matthews, dont on est en train de parler. Ce sont ses coéquipiers et Darrell Impey et Luke Durbridge qui travaillent. Mais après Peter Sagan qui est venu engueuler Matthews de ne pas prendre de relais, c'est le Norvégien, le champion de Norvège, Edvald Boasson Hagen, qui est venu à son niveau et qui lui a fait un geste comme pour dire également tu roules pas avec nous. Et Michael Matthews lui a fait non de la tête et on le voit se dégourdir les jambes, l'Australien qui conserve véritablement, en tout cas vraiment visiblement, ses forces pour le final.
Jérôme, tu voulais ajouter un mot?
Tout simplement, le Norvégien Boasson Hagen a expliqué à Matthews, là, à l'instant, à l'image, bien tu roules pas, et bien moi non plus. Donc apparemment, le Norvégien a décidé de ne plus collaborer non plus jusqu'à ce que Matthews reprenne le travail. Mais Matthews a deux équipiers, Boasson Hagen en a pas. C'est coup de poker, on joue au poker menteur dans cette échappée sur le final.
Ok, allez, 15 km 400 de l'arrivée. On revient dans un instant pour le final. On rappelle, Fred, qu'ils sont donc 7 à l'avant. Hein.
7. Peter Sagan, Boas Samaghan, Van Avermaet, Samuel Dumoulin et 3 coureurs de l'équipe Orica Greenedge, Durbridge, Impey et ce Michael Matthews dont tout le monde se méfie. 25 ans, vainqueur d'étapes sur le Giro, sur la Vuelta, star montante du cyclisme mondial. Toujours à la recherche d'une première victoire d'étape sur le Tour de France. Peut-être interviendra-t-elle dans 15 km exactement. C'est entre ces 7 hommes-là que la victoire se jouera sur cette 10e étape.
Et on se retrouve dans un instant pour vivre le final de cette étape. A tout de suite sur RMC.